Et bonjour à tous. De plus en plus, les pirates informatiques s'en prennent au secteur de la santé, aux hôpitaux, aux laboratoires et même à l'Agence européenne du médicament. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer pourquoi la santé est ainsi devenue une cible. Et puis nous recevrons Pierre Gastineau de la lettre spécialisée Intelligence Online. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur la politique de recrutement des services de renseignement de plusieurs grands pays. Et vous vous êtes rendu compte qu'ils s'ouvrent de plus en plus aux femmes et aux minorités sexuelles.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
En 2020, c'est 27 hôpitaux qui ont été victimes d'attaques majeures. En 2021... c'est un hôpital par semaine. Quand on dit une attaque d'hôpital, c'est l'arrêt des systèmes d'imagerie, l'arrêt de la téléphonie, la très grande difficulté pour continuer les chimiothérapies, et donc c'est un risque énorme.
Voilà, vous avez peut-être reconnu le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O, qui s'inquiétait en février dernier de l'augmentation du nombre d'attaques informatiques qui ont touché les hôpitaux français. Alors, pour comprendre de notre côté pourquoi les pirates ciblent de plus en plus le domaine de la santé, eh bien, Maxime Fayolle, vous êtes, vous, d'abord rendu à l'hôpital nord-ouest de Villefranche-sur-Saône.
Effectivement, car là-bas, comme dans beaucoup d'autres hôpitaux, le 15 février, dans la nuit du dimanche au lundi, à 4h30 du matin, toutes les données informatiques ont été chiffrées par des pirates. L'établissement est alors la cible de ce qu'on appelle un rançongiciel ou ransomware en anglais. On vous demande de l'argent en échange de la clé de déchiffrement de vos propres données.
Et ça se manifeste comment, concrètement ?
Alors, vous n'allez pas voir sur l'ordinateur un écran noir avec une tête de mort qui vous demande de l'argent. C'est plus simplement un gros bug, c'est ce qui s'est passé à Villefranche. Ce sont les urgences qui s'en rendent compte en premier. Écoutez, Nasser Amani, le directeur des services numériques de l'hôpital, il n'avait jamais connu ça.
En 20 ans de travail dans des systèmes d'information hospitaliers, c'est la première fois qu'on vit une attaque, une cyberattaque de ce type, aussi bien préparée, puisqu'elle a été très bien préparée visiblement. Donc c'est cette phase de un peu de peur peut-être, parce qu'on est en plein milieu de la nuit, donc on se dit mince, qu'est-ce qui se passe ? Et puis très vite, on rentre dans le vif du sujet et on met toutes les actions en place pour remédier à tout ça.
Toutes les actions en place, mais précisément quelles actions ?
Eh bien, il a pris immédiatement des mesures d'urgence.
La première chose à faire, c'est tout arrêter. Ce qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on a complètement débranché les accès à nos infrastructures de stockage pour éviter que ça se propage. Et on a très vite mis en place une cellule de crise, une phase d'évaluation de la capacité des urgences à fonctionner en mode dégradé. Ce sont des modes où on a des réplications à des formats papier, des principales données administratives et médicales des patients hospitalisés. Un peu comme nous avons connu il y a 20 ans au lit du patient avec des courbes de température et prescription des patients.
Ouais, c'est ça, on passe de l'ordinateur à la machine à écrire, quoi, on revient en arrière. Mais du coup, les données numériques, elles sont définitivement perdues ?
Alors, dans ce cas-là, non. On peut dire que l'hôpital s'en est bien sorti, comme nous le raconte encore Nasser Amani.
Aujourd'hui, on n'a rien perdu. C'est une chance dans notre malheur, puisque on a pu revenir à des sauvegardes de quelques minutes avant l'attaque. Toutes les données sont intègres et aucune donnée n'a été exfiltrée ou a pu être récupérée par l'attaquant. Mais ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques sur la prise en charge des patients. On aurait pu tout perdre, hein, dans l'historique de l'ensemble des données de 20 ans ou de 30 ans pour certains patients.
Oui, on aurait pu, mais si on l'entend, finalement, tout est rentré dans l'ordre.
Oui, c'est vrai, mais il a tout de même fallu reconstruire des nouveaux serveurs et pas simplement nettoyer ce qui était infecté, ce qui a pris du temps et qui continue d'en prendre d'ailleurs, puisque l'hôpital n'est pas encore tout à fait revenu dans la situation qui était celle d'avant la cyberattaque.
Mais si ça n'avait pas été le cas, Maxime, si ces données avaient été perdues, qu'est-ce que l'hôpital aurait fait ? Est-ce qu'il aurait payé la rançon ?
Alors non, sur ce point, la doctrine française est très claire, en tout cas en ce qui concerne les hôpitaux et plus largement tous les services publics, on ne paye pas, jamais. Écoutez le commandant de police Pierre Penalba, il a écrit un ouvrage sur le sujet, Cybercrime, et il dirige l'unité de lutte contre la cybercriminalité à Nice. Lui conseille aux victimes de ne jamais céder au chantage.
On leur demande de ne jamais payer, évidemment, parce que ça ne fait qu'encourager les choses. Malheureusement, on sait que des entreprises le font. Le problème, on leur répète systématiquement, c'est que quand vous payez une rançon, vous laissez votre système vulnérable. C'est-à-dire que le fait de payer une rançon, on va vous rendre vos fichiers. Deux semaines après, ça peut recommencer. Donc il vaut mieux ne pas payer, avoir une perte de chiffre d'affaires, et après recommencer son travail, mais après avoir fait un nettoyage en profondeur, avoir fait appel à des spécialistes.
Ouais, sauf que dans un hôpital, Maxime, un piratage, ça n'a pas que des conséquences sur un chiffre d'affaires. C'est de la vie des gens qu'on parle.
Et oui, alors dans le cas de Villefranche-sur-Saône, la cyberattaque n'a pas eu de conséquences sur la santé des patients, puisque toutes les machines ont continué de fonctionner normalement. Et en France, pour l'instant, on ne recense pas de décès directement liés à une cyberattaque. Mais c'est vrai que ça a été le cas en Allemagne récemment. Un patient qui devait être admis dans un hôpital ciblé par des pirates informatiques est mort lors de son transfert dans un autre établissement où il devait être pris en charge. Ce qui veut dire qu'il y a, malgré tout, un risque.
Et c'est pour ça que les pirates ciblent les hôpitaux, c'est parce qu'ils savent qu'on ne se permettra pas de jouer avec la vie des patients?
Alors pas seulement. Techniquement, si les attaquants ciblent les hôpitaux, c'est surtout parce qu'ils sont moins protégés que d'autres entreprises, explique Vincent Trelli. Il est président de l'APSIS, l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé.
Les systèmes informatiques des grandes sociétés, du domaine bancaire ou du domaine industriel sont de plus haut niveau. Les pirates informatiques se sont rabattus vers des secteurs qui sont un peu plus fragiles, dont fait partie la santé. En particulier, pendant la crise sanitaire que l'on connaît, les pirates imaginent que, eh bien, pour 50 000 ou 100 000 euros, l'hôpital va pas risquer une désorganisation de sa prise en charge des patients et va peut-être décider de payer. Dans un hôpital, on est plutôt dans un environnement bienveillant. Les responsables sécurité dont j'ai fait partie sont parfois vus un peu comme des parano, quoi. C'est-à-dire, attention, on peut être piraté, on va nous attaquer, on va nous voler les données, il faut avoir des mots de passe forts, il faut les changer régulièrement. Et effectivement, on s'entend régulièrement dire, vous nous perturbez avec ces mesures parce que ça nous fait perdre du temps et nous, toute minute compte au service du soin et des patients.
Mais c'est vraiment pour ça que les hôpitaux sont moins sécurisés que les banques? C'est parce que les spécialistes de l'informatique ne sont pas assez pris au sérieux?
Non, pas seulement. Il y a aussi une autre raison qui fait que les établissements de santé sont particulièrement visés, c'est que la cybersécurité, ça coûte cher et l'argent des hôpitaux, il est surtout investi dans la santé, rappelle encore Vincent Trelli.
Il y a une question de budget, c'est-à-dire que l'informatique n'a pas forcément été ces 10 dernières années une priorité, parce que à l'hôpital, on le sait, un directeur d'hôpital va préférer recruter des infirmières, faire construire un nouveau bloc opératoire, plutôt que de remplacer les PC ou investir dans des outils de sécurité pour se prémunir d'une menace qui ne se réalisera peut-être pas. Donc oui, on a dans les hôpitaux français un parc informatique qui est pas forcément au top. On a des PC qui peuvent avoir entre 5 et 10 ans. On a encore des systèmes d'exploitation comme Windows XP ou Windows 7 et ça donne une certaine fragilité.
Ouais, ça fait des hôpitaux une cible de choix. Maintenant, pourquoi les attaquer s'ils ne payent jamais?
Alors ça, le problème, c'est que déjà les pirates ne le savent pas forcément. Les attaques peuvent venir de l'étranger. Or, dans d'autres pays, on a souvent payé ces rançons, aux États-Unis par exemple. Mais il y a un autre cas de figure. Il arrive aussi qu'une cyberattaque, ça se fasse à l'aveugle. Dans ces cas-là, les hôpitaux ne sont pas directement visés. Les pirates lancent une sorte de grand filet à travers ce que l'on appelle des opérations d'hameçonnage ou de phishing en anglais.
Alors on va rappeler ce que c'est.
Ce sont des faux emails que l'on reçoit régulièrement dans nos boîtes, qui se font passer pour notre banque, pour la poste ou les impôts, et qui vont nous demander de cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe. C'est exactement de cette manière que les pirates sont entrés à l'hôpital de Villefranche. Selon nos informations, il s'agirait d'un salarié de l'établissement qui a ouvert ses mails personnels sur son lieu de travail. Il a cliqué sur un lien et le cryptovirus s'est répandu par pur opportunisme dans les réseaux de l'hôpital.
Ah oui, donc c'est par hasard que cet hôpital a été touché?
Oui, exactement. Mais il faut savoir que même si l'hôpital ne paye pas la rançon, tout est bon à prendre pour les pirates, car ils mettent tout de même la main sur des données médicales. Et ça, c'est un jackpot, explique Stéphane Duguin. Il préside le Cyber Peace Institute à Genève et il est un ancien enquêteur d'Europol.
Les données patients sont parmi les données les plus riches, je dirais, surtout au marché noir. Les données patients, aujourd'hui, s'échangent aux alentours de 250 euros l'unité, selon les différentes actions de piratage que l'on peut documenter. Voler ces données les monnayer, c'est extrêmement lucratif, parce que d'autres groupes criminels peuvent s'en servir pour d'autres crimes, sur base de usurpation d'identité, fausses déclarations, accès aux coordonnées bancaires, escroquerie, et j'en passe.
Ouais, donc dans tous les cas, les pirates sont gagnants.
Oui, exactement. Et pour parvenir à leur fin, ils ne reculent parfois devant rien, comme l'explique encore Stéphane Duguin.
On l'a vu dans une attaque en Finlande en fin d'année dernière. Il n'y a aucune limite en fait à l'innovation crapuleuse. L'hôpital ne paye pas, certes. L'hôpital ne veut pas non plus payer si les informations vont être publiées, certes. Dans ces cas-là, l'attaquant a décidé de faire chanter tous les patients, un par un, en leur envoyant un mail personnalisé, en leur disant « voilà, j'ai vos informations, j'ai toutes vos conversations avec votre psychologue, j'ai vos historiques de santé, et si vous ne me payez pas, ça va se retrouver publié. »
Ouais, publié en l'occurrence sur le dark web. Et là donc, ce sont les patients eux-mêmes qu'on fait chanter.
Oui, tout à fait, et c'est très lucratif. Au global, une récente étude estime que, plus généralement, la cybercriminalité a rapporté 1000 milliards d'euros l'an passé aux pirates. En France, ce serait d'environ 5 milliards qui partiraient chaque année en fumée.
Donc là, c'est bien l'argent qui est visé, qui est recherché. Maintenant, il arrive que certains pirates aient d'autres motivations.
Oui, alors il faut bien voir que depuis le début de la crise de la Covid-19, la course au vaccin fait rage entre les différents pays. Il y a donc une lutte sans merci où tous les coups sont permis.
Ouais, vous voulez dire qu'on va jusqu'à espionner la concurrence, hein.
C'est difficile d'être affirmatif, mais ce qui s'est passé récemment a effectivement toutes les caractéristiques d'un cyber-espionnage. Au mois de décembre 2020, aux Pays-Bas, l'Agence européenne du médicament a fait l'objet d'une cyber-attaque. Et d'une attaque qui n'a rien à voir avec celle de Villefranche-sur-Saône. Pour Stéphane Duguin, du Cyber Peace Institute, on est là dans le cadre d'une attaque ciblée.
Là, le mode opératoire montre que ce n'est pas des gens qui sont réveillés le matin et qui se sont dit « tiens, si on attaquait l'agence du médicament ». L'agence européenne du médicament était une cible, et dans l'agence européenne du médicament, certains personnels étaient des cibles précises. Le motif est un motif de déstabilisation, c'est assez clair. On rentre dans le système pour voler des données, et il y a un autre mode opératoire qui normalement n'est pas forcément lié avec le premier, c'est la désinformation. C'est transformation des données, manipulation des données et des informations. Et ces deux actions sont utilisées pour amoindrir la confiance du public dans l'efficacité d'un vaccin. Et l'intérêt qui est servi est un intérêt géopolitique.
Ouais, géopolitique parce qu'en publiant de fausses infos sur des vaccins, on voulait, en tout cas c'est ce qui apparaît, c'est ce qui semble, discréditer l'agence ou les vaccins qu'elle valide.
Et oui, parce que les pirates qui ont attaqué l'Agence européenne du médicament ont ensuite fait fuiter des documents sur le Darknet. Mais des documents falsifiés, modifiés. Et au même moment, les laboratoires Moderna et AstraZeneca ont eux aussi subi des tentatives de piratage.
Et en France, il y a des labos qui ont été ciblé.
Alors, ce qu'on sait, c'est que Sanofi a été attaqué, apparemment sans dégâts. L'Institut Pasteur, lui aussi, a été visé à l'époque où il espérait encore trouver un vaccin. J'ai également contacté Pfizer et le laboratoire Valneva à Nantes qui n'ont pas répondu à mes demandes. Mais selon nos informations, la plupart des labos ont été attaqués par des services de renseignement qui cherchaient à savoir où en était la progression des vaccins.
Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a compris ce que cherchent les pirates, de l'argent, des données, parfois même, on l'a vu, à discréditer des vaccins, Maxime Fayolle. Mais est-ce qu'on a une idée de qui sont ces pirates?
Alors, ce n'est pas simple, parce que les enquêtes sur les cyberattaques sont plus complexes que les enquêtes de police classiques. Les auteurs des faits sont souvent très difficiles à localiser, et surtout, ils font tout ce qu'ils peuvent pour effacer leurs propres traces.
Et comment on fait pour les trouver, alors?
Eh bien, la police essaye, dans un premier temps, de comprendre la structure de ces réseaux criminels. C'est ce qu'explique Catherine Chambon, la sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police judiciaire.
Vu la nature des ransomware, on a clairement le sentiment que ce sont des équipes criminelles organisées. De manière déconcentrée, les cellules sont certainement petites dans les gens qui se connaissent par des réseaux et ne se connaissent plus physiquement. Donc c'est un système très déconcentré et à partir de là développent des actions coordonnées. C'est clair que c'est très, très organisé. Certainement que certaines peuvent venir de France, mais la plupart du temps d'étrangers. L'étranger, ça peut être vague, hein. Ça peut être effectivement n'importe quel pays. Alors certains pays sont toujours plus désignés à l'opprobre public que d'autres, mais pour autant, nous avons déterminé que cette déconcentration permet de supposer qu'il y en a dans plusieurs pays sur une même attaque.
Ouais, donc ça vient peut-être de l'étranger, mais on n'est pas plus avancé pour autant.
Oui, c'est vrai, mais on peut tout de même affiner un petit peu. Dans le domaine des pirates, on identifie généralement deux zones du monde sur lesquelles on se focalise plus que les autres. D'un côté l'Asie, avec la Chine et la Corée du Nord principalement, et de l'autre l'Europe de l'Est et tous les pays de l'ancien bloc communiste.
Mais qu'est-ce qui permet de cibler ces pays-là plus particulièrement ?
Alors dans le cas de la Corée du Nord par exemple, les services de renseignement évoquent des raisons financière. Le pays a besoin de trouver de l'argent pour survivre malgré les sanctions internationales et il y parvient par la cybercriminalité. Pour la Russie ou la Chine, c'est plus souvent des questions d'espionnage, même si l'appât du gain est aussi en jeu.
Bon, j'entends bien, mais est-ce qu'on a la preuve qu'une attaque viendrait de la Russie, par exemple ?
Alors, certains enquêteurs ont parfois retrouvé des mots en cyrillique dans les codes qui ont servi à pirater certaines entreprises ou certains services publics. Une piste qui laisse penser que des russophones pourraient être dans le coup. Mais attention, ce n'est pas une certitude, explique Baptiste Robert. Il est hacker éthique et chercheur en cybersécurité.
Il faut être extrêmement méfiant, car c'est un jeu, en fait. C'est le jeu du chat et de la souris, et l'attribution, en règle générale, dans ce domaine-là, est extrêmement compliquée. Un piratage, ça va aussi se faire à partir d'une infrastructure. Donc on va lancer une attaque depuis un serveur. Donc la question, c'est de dire, ok, bah, ce serveur, à qui il appartient ? Savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce serveur-là avant qu'il attaque. Ça va être une vraie enquête. Effectivement, parfois, on trouve des petits indices à l'intérieur d'un bout de code qui nous font dire que potentiellement, ce serait là. On trouve des codes qui sont similaires. Mais les attaquants, ceux qui créent ce code malicieux, jouent aussi avec ça. Les Russes sont bodos, mais c'est pas les seuls à jouer à ce jeu-là.
Ouais, autrement dit, si je veux me faire passer pour un russe, il suffit que je mette dans mon logiciel un bout de code en cyrillique.
Oui, c'est assez facile d'intoxiquer les enquêteurs, mais il est tout de même admis que les Russes font partie des meilleurs hackers du monde. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs sources policières, dont le commandant de police niçois Pierre Penalba. Il m'a raconté la difficulté qu'il a eue à remonter une filière d'Europe de l'Est après l'attaque d'un établissement de santé sur la Côte d'Azur.
Malheureusement, on n'a pas pu interpeller les auteurs pour la bonne raison que les adresses IP étaient à l'étranger, on va dire dans un pays très lointain de l'Est. Mais vous savez, à partir du moment où vous avez un auteur qui est à l'étranger, qu'il y a des délais d'identification, vous pouvez être certain, en informatique, je vais me brancher sur un serveur à partir d'une adresse IP étrangère. Je reste dans un cybercafé, je fais mon affaire, je m'en vais du cybercafé, il n'y a plus personne. Pour remonter après, il va falloir utiliser des techniques d'enquête policière assez complexes et ça va être difficile. Donc on imagine les services étrangers qui sont saisis des affaires comme ça. S'ils ne mettent pas les moyens, s'ils n'ont pas l'envie de coopérer avec nous, on est quasiment certain de jamais retrouver les auteurs.
Oui, quasiment certain, c'est pas vraiment rassurant tout ça.
Non, et ça l'est d'autant moins que pour aboutir, ces enquêtes doivent compter sur la coopération entre les différentes polices des États. Or, qui dit coopération à l'étranger, dit souvent lenteur administrative, explique encore Pierre Penalba.
Dès qu'on sort du cadre français ou européen, vous avez une lenteur qui est due à la coopération. Vous avez différentes lois selon les pays, vous n'avez pas toutes les mêmes règles, vous n'avez pas les mêmes services d'enquête, vous avez des disparités énormes. On n'a pas une sorte de cyber-police internationale qui pourrait agir. Mais vous imaginez qu'il y a une question politique derrière. Il y a un État, est-ce qu'il va accepter de donner une justice, une police à une force extérieure qui va venir intervenir sur son sol ? Je crois que c'est utopique, ça.
Ouais, d'autant plus que j'imagine qu'il y a des pays coopératifs et d'autres qui le sont moins.
Et oui, et il peut même arriver que certains groupes criminels bénéficient d'une aide étatique ou au moins d'une protection.
Et vous pensez à qui ?
Alors on pense par exemple à la Russie, on l'a vu avec l'affaire Skripal en Grande-Bretagne ou encore avec l'affaire Navalny. L'État russe dément systématiquement toute thèse impliquant des membres de ses services et donc n'a pas l'intention d'enquêter sur eux. Mais malgré tout, la France tente de nouer des liens avec des partenaires d'Europe de l'Est. Et selon Catherine Chambon, la sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité, il y a tout de même des résultats.
Nous avons de bonnes coopérations avec la Russie, l'Ukraine, qui ont apporté des résultats tout à fait probants entre 2020 et 2021. Ce sont deux dossiers qui sont majeurs, puisque l'un concerne Emotet, qui a été quand même un des distributeurs les plus néfastes depuis des années et plus nocifs, et qui a fait l'objet d'un travail qui a engagé beaucoup de pays dans la traque des cybercriminels et qui a abouti à l'arrestation des auteurs. Le second, ça a été le dossier Irigor, qui a été fait cette fois-ci en trilatéral avec le FBI, l'Ukraine et nous-mêmes, et qui a, avec une forte implication des autorités ukrainiennes, permis de démanteler l'équipe derrière ce logiciel malveillant.
Et donc de condamner ses membres ?
Alors pas forcément. Si vous prenez l'affaire Egrégor, ce sont les pirates qui sont notamment à l'origine de l'attaque du quotidien régional Ouest France en novembre dernier, ou encore d'Ubisoft, eh bien ils ne seront pas jugés en France. Le procès se tiendra en Ukraine, car le pays refuse d'extrader ses ressortissants.
Et en France, on a déjà jugé des pirates ?
Eh bien en fait, un seul grand procès s'est tenu récemment contre le concepteur d'un rançongiciel qui s'appelle Loki. C'est ce que m'a raconté la chef de la section cybercriminalité du parquet de Paris, Johanna Brousse.
Nous avons eu au mois d'octobre dernier à Paris le procès d'Alexander Vinik. Il a été condamné à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de blanchiment. Le parquet a fait appel de sa relaxe partielle sur l'effet d'atteinte à un système de traitement automatisé de données et l'affaire sera de nouveau entendue devant la cour d'appel prochainement. Donc il y a déjà eu un procès de ce type-là et on espère bien évidemment en avoir d'autres très prochainement.
D'autres d'ici la fin de l'année, car les affaires de cybercriminalité ne cessent d'augmenter. Au parquet de Paris, la hausse était de 540% entre 2019 et 2020. 540%. Et à ce jour, il n'y a eu qu'un seul procès dans la capitale.
Ce qui est assez fou. Hein. Un seul procès, 540% d'augmentation d'affaires. Et c'est d'autant plus fou d'ailleurs que des affaires de ce type, il pourrait y en avoir de plus en plus parce que les cibles vont se multiplier.
Et oui, c'est effectivement la grande crainte. Car il faut savoir que dans le secteur de la santé, de nombreux objets médicaux sont connectés. Ça veut dire qu'un pirate pourrait très bien en prendre le contrôle, soit pour un chantage crapuleux, soit à des fins terroristes. Ça fait un moment qu'on le redoute si l'on en croit Vincent Trelli de l'APSIS.
C'est une inquiétude et c'est pas nouveau. Hein. En 1998, il y a un monsieur qui a tué sa femme et la voisine de chambre de sa femme en prenant la main à distance sur les machines de monitoring de Réa et en les faisant dysfonctionner. Donc aujourd'hui, le risque est réel. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés. Dans les hôpitaux, si on prend cet exemple, on a des pompes à morphine connectées dans les services de réanimation. Faut pas croire qu'on a une infirmière derrière chaque lit de Réa qui vient injecter une petite dose toutes les heures. Hein. C'est ce qu'on appelle un pouce seringue, qui est lui-même relié à un ordinateur, à l'intérieur duquel on a mis un certain nombre de paramètres et qui fait le travail automatiquement. Tous ces mécanismes ont des fragilités. Maintenant, il n'y aura pas que le secteur de la santé. Hein. On peut envisager aussi le transport, le ferroviaire, les voitures autonomes, tout ce qui aujourd'hui est en train de se numériser et qui potentiellement pourra subir des attaques avec des objectifs de terrorisme.
En fait, tout objet connecté est vulnérable. Bon, mais en même temps, Maxime, on joue un peu à se faire peur, parce qu'en France, c'est jamais arrivé.
Non, pas pour l'instant, mais il n'empêche, les services de police et la justice sont très sensibles à cette question. Un référent cyber vient d'ailleurs d'être mis en place au parquet national antiterroriste. Le but, c'est d'éviter que les cybercriminels aient un temps d'avance sur la réponse policière et judiciaire.
Mais ils ne l'ont pas déjà, avec tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, largement ce temps d'avance ?
Aujourd'hui, ici, on l'a vu, les saisines du parquet de Paris ont été multipliées par 6, les attaques sont de plus en plus nombreuses et les enquêtes sont toujours lente et souvent infructueuse. C'est pour cela que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un plan d'1 milliard d'euros pour la filière cybersécurité en février dernier.
Et ça sera suffisant ?
Pas sûr, parce que les objectifs fixés par le chef de l'État sont ambitieux. Il y a notamment la création d'un campus numérique, le renforcement de la formation du grand public. Or, la France est déjà en retard, estime Vincent Trelli de l'APSIS.
On est un peu en retrait par rapport aux Américains et aux Israéliens en particulier en termes de cybersécurité. On a peu de pépites françaises et l'objectif du président Macron, c'est aussi de faire en sorte que la filière cyber se développe et qu'on ne soit pas dépendant d'autres États, en particulier pour la protection de nos données. Au niveau européen, nous n'avons aucun équivalent à IBM, Hewlett-Packard, Cisco, Facebook, Amazon, Google, Apple, et j'ajouterais les Chinois, Hyundai, Xiaomi, Tencent, Huawei. Donc si on regarde à ce niveau-là, 1 milliard, c'est tout petit. C'est plus de 30 ans de retard que nous avons par rapport à ces géants, en particulier le pôle américain avec sa Silicon Valley et le pôle chinois.
Et 30 ans de retard, ça peut se rattraper?
Ça s'annonce compliqué, d'autant plus que la cybersécurité, ça ne passe pas que par des pépites, des ingénieurs ou des enquêteurs supplémentaires. C'est aussi le travail de chacun. On a évoqué le piratage de Villefranche-sur-Saône qui s'est produit parce qu'un salarié a cliqué sur une pièce jointe inconnue dans un email. Eh bien, tous ces petits gestes du quotidien qui paraissent anodins, il faut les faire connaître. Il y a encore tout un travail de sensibilisation à faire, estime le commandant de police Pierre Penalba.
Le principe, c'est un principe de précaution qu'il faudrait avoir pour nous tous. C'est-à-dire, j'ai un objet, à partir du moment où il est connecté à Internet, il est vulnérable. Donc il y a vraiment tout un système à mettre en place de pensée en se disant, est-ce que ça vaut bien le coup que j'installe chez moi une petite boîte qui va écouter toute la journée ce que je suis en train de dire pour réagir quand j'ai besoin de savoir s'il fait beau dehors? Est-ce que c'est vraiment utile? Il faut quand même se dire que tous ces assistants vocaux, c'est quelque chose qui est une intrusion dans votre vie privée.
Bref, il faut éviter de faire rentrer des chevaux de Troie chez vous et ne pas cliquer sur n'importe quoi, changer ses mots de passe, les rendre complexes. Bref, il faut là aussi appliquer des gestes barrières en quelque sorte pour maintenir la sécurité de ces appareils et éviter les attaques.
Ouais, quels que soient les virus, les gestes barrières, c'est toujours la même chose. Et le problème, c'est que ces objets connectés, Maxime, va quand même y en avoir de plus en plus, donc pas sûr que les pâtés de sable suffisent à endiguer la marée. En tout cas, merci pour cette enquête. Je précise qu'on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires. Vous pouvez le faire également sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Les services de renseignement s'ouvrent aux femmes et aux minorités sexuelles. On vous explique ça dans quelques instants. Call me a fool. Une voix à la fois douce et rageuse, une mélodie qui se balade entre gospel et pop, c'était Call Me a Fool, extrait du sixième et dernier album de Valérie June, la chanteuse américaine qui vit aujourd'hui à Brooklyn.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Pierre Gastineau, rédacteur en chef d'Intelligence Online. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié une enquête sur ce que vous appelez la course à l'inclusion dans les services de renseignement. En clair, les services de plusieurs pays ont décidé de se féminiser et de s'ouvrir aux agents LGBT. Ce qui est une petite révolution parce que c'est vrai que jusqu'à il y a peu, les femmes et les minorités sexuelles étaient peu ou pas représentées.
Complètement. C'est un phénomène qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des services de renseignement des pays occidentaux. Pour les femmes, historiquement, c'est dans beaucoup de pays, c'était des services d'origine militaire, en fait, les services de renseignement, et donc du coup, principalement réservés aux hommes. Pour les LGBT, c'est encore une autre question, c'est que ça a été très longtemps perçu comme une menace de sécurité pour un service de renseignement, d'avoir un responsable homosexuel ou autre, était potentiellement, notamment dans les contextes de guerre froide ou autre, perçu comme une faille potentielle qui aurait pu être exploitée par un ennemi, c'est-à-dire on aurait pu le faire chanter ou autre, pour rentrer à la CIA. C'était un vrai passage obligé de connaître exactement la sexualité de la personne et autres, avec ce risque énorme qui était, un agent russe ou cubain découvre que vous avez des liaisons homosexuelles, voilà, ça devient une faille pour toute l'agence.
Vulnérabilité.
Exactement.
Alors tout ça, heureusement, ça bouge, ça évolue. On va parler pour commencer peut-être du plus célèbre des services de renseignement du monde, c'est-à-dire la CIA. Elle était dirigée récemment par une femme, Gina Haspel, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Et le service de renseignement intérieur américain, lui, est dirigé depuis janvier par une femme.
Complètement, et surtout la totalité du renseignement, donc le coordinateur national du renseignement local, qui s'appelle maintenant Avril Haines, est donc une femme pour la première fois. Et effectivement, sous Donald Trump a été le premier président à nommer une patronne de la CIA. Donald Trump a aussi, j'y pense, nommé le premier gay ouvert au renseignement américain, donc au poste de directeur national du renseignement, ce qui était aussi une révolution contre-intuitive.
C'était Richard Grenell, c'était lui ?
Tout à fait, qui a été donc l'ancien ambassadeur en Allemagne pour les États-Unis et qui ensuite était donc devenu directeur national du renseignement.
Et qui revendiquait d'ailleurs son homosexualité.
Complètement, c'était le premier, et donc encore une fois c'était Trump qui l'avait nommé. Au Royaume-Uni, vous aviez une directrice du MI5, donc le renseignement intérieur, qui avait été la première femme du coup à la tête d'un service important de renseignement occidental des années 90. Et en France, ce phénomène arrive peu à peu. Aujourd'hui, vous avez plusieurs services comme TRACFIN, comme le service de renseignement territorial et plusieurs autres services mineurs qui commencent à être dirigés par des femmes.
Alors la CIA, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fait pas que recruter discrètement finalement des agents LGBT, elle promeut aussi la communauté LGBT, c'est-à-dire qu'elle en fait un argument de communication.
Complètement. Elle a même une unité dédiée en interne qui s'appelle Angle, qui vise à promouvoir en interne les agents LGBT. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, d'un phénomène très où tout ça a été très caché, voire totalement mis sur le côté, aujourd'hui, c'est au contraire le promouvoir, et à la fois, j'allais dire, dans un esprit un peu de...
Il faut le montrer, au contraire.
Oui, puis dans un esprit un peu de culpabilité par rapport au phénomène passé. Et aujourd'hui, il faut le montrer précisément aussi pour déjà élargir son vivier, tout le spectre des agents recrutables, et aussi, justement, que cette ancienne faille de sécurité, au contraire, ne puisse jamais être utilisée contre un agent des services. Donc à partir du moment où c'est assumé, promu...
Quelque chose de naturel, de reconnu, exactement, d'accepté, d'admis par la société.
Alors en fait, finalement, vous n'avez...
On casse la vulnérabilité.
Voilà, exactement. Ouais. Vous cassez votre vulnérabilité en promouvant, en fait, le phénomène.
Alors cette promotion, elle est vraiment visible, hein, parce que lors de la Journée internationale de la visibilité transgenre qui a lieu le 31 mars, le renseignement intérieur américain célèbre donc la communauté transgenre, et puis la CIA a même produit un documentaire sur les LGBT.
Un documentaire assez fascinant qui est disponible sur YouTube avec à peu près tous les anciens directeurs et donc justement aussi les anciens, très anciens directeurs qui racontent comment c'était à l'époque, des historiens de la CIA et beaucoup de personnel aussi LGBT de la CIA, qui est un documentaire qui se lit entre les lignes de comment ils ont mis fin à cette vulnérabilité en promouvant et en institutionnalisant en interne des gender officers, donc des gens spécialisés dans le fait d'inclure les minorités, d'inclure à peu près toutes les facettes de la société, en fait, pour in fine que le service ressemble le plus possible à la société américaine.
Ouais, alors ce qui est fou, c'est qu'il y a un site qui évalue les entreprises, justement, dans leur travail sur l'inclusion. Ça s'appelle Glassdoor. Et il se trouve qu'elle a décerné le titre de meilleur employeur LGBT à la CIA.
Aux États-Unis, oui. Ouais. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au Royaume-Uni, donc qui part de très loin pour le coup, le renseignement anglais, aujourd'hui, effectivement, le MI5, le MI6, donc le renseignement intérieur et extérieur anglais, sont aussi qualifiés de régulièrement, gagnent les titres de meilleur employeur LGBT du pays.
Gay-friendly.
Quand on sait d'où vient le renseignement anglais, c'est-à-dire de clubs de vieux garçons, d'universités d'Oxford et Cambridge, très 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 engoncés dans leur misogynie et leur
et l'homophobie.
Aujourd'hui, c'est assez passionnant de voir l'ouverture de ces services.
Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs en Grande-Bretagne. Il y a eu des polémiques assez violentes là-dessus et ces dernières années, mais même très récemment, hein, Richard Moore, le patron du MI6, a dû s'excuser justement pour cette approche de l'homosexualité.
Complètement. Et au Royaume-Uni, ça a été travaillé depuis quelques années et ça commence notamment médiatiquement pour moi à la réhabilitation d'Alan Turing, qui est donc ce mathématicien génial qui avait cassé les codes nazis dans la Seconde Guerre mondiale, puis qui avait été condamné pour son homosexualité, qui s'était suicidé, et dont Hollywood a fait un film. Et la réhabilitation d'Alan Turing, qui commence au début des années 2010 jusqu'au pardon de la reine, vient dire aussi que justement vous pouvez aujourd'hui être un espion de Sa Majesté et être homo, et ça ne pose aucun problème.
Alors, la France, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on féminise maintenant les services. On n'a pas évoqué, mais Florence Parly, par exemple, ministre de la Défense, c'est aussi une femme. Et d'une manière plus générale, pour ce qui est de la communauté LGBT, les services s'ouvrent en France. Mais alors, contrairement aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, on n'en fait pas un argument, on le fait de manière extrêmement discrète.
Complètement. Là, pour le coup, il y a une différence de culture entre le monde anglo-saxon et latin continental. C'est-à-dire qu'en France non plus, c'est plus du tout une faille de sécurité aujourd'hui, vous pouvez accéder aux plus hautes fonctions en étant gay sans problème, mais ce n'est pas du tout un argument, notamment de recrutement. Aux États-Unis, le renseignement est en soi une pratique. Au Royaume-Uni, ce sont des diplomates ou autres. En France, historiquement, c'est des militaires. Donc c'est aussi toute une culture militaire qui est progressivement à changer institutionnellement et qui est beaucoup plus lourde que des structures plus dédiées aux États-Unis, par exemple. Donc je pense qu'il y a une question de culture aussi historique à modifier, que ce soit d'ailleurs pour l'inclusion des gays ou des femmes. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de... Voilà, c'est une culture un peu militaire qui en pèse.
Machiste,
un peu
sexiste.
Militaire.
Ouais. Bon. Bien, merci pour toutes ces explications. Passionnant, Pierre Gastineau. Et si vous le souhaitez, si vous voulez aller plus loin, bien je vous renvoie à votre article, Pierre, qui est consultable sur Intelligence Online. C'est une lettre en ligne qui fonctionne, je précise, par abonnement. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer, réalisée par Stéphane Combe. Jean-Baptiste Audibert a choisi la musique et à la technique, il y avait Céline Guéribi et Florent Bujon. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.